M4 MA001, Histoire culturelle de l'Occident, séance 8, enregistrement numéro 3, la contestation étudiante en France dans les années 60. Dès les années 60, la France dite des Trente Glorieuses connaît plusieurs signes de crise économique et sociale. On peut évoquer par exemple les manifestations paysannes en 1961, les grèves des mineurs en 1963, les grèves au chantier naval de Saint-Nazaire en 64. De plus, les résultats des élections présidentielles de 1965 et ceux des élections législatives de 1967 laissent percevoir le désir d'un renouvellement politique démocratique. L'éditorial remarqué de Pierre Vianson-Ponté, VIANSON-PONTE, dans Le Monde du 15 mars 1968, évoque un climat morose. Ce qui caractérise actuellement notre vie publique, écrit-il, c'est l'ennui. Les Français s'ennuient. Ils ne participent ni de près ni de loin aux grandes convulsions qui secouent le monde. La guerre du Vietnam les émeut, certes, mais elle ne les touche pas vraiment. La situation des universités est difficile avec l'arrivée des générations de baby-boomers. Les effectifs passent de 157 000 étudiants en 1955-56 à plus de 500 000 en 67-68. Face à cet essor, le gouvernement du général de Gaulle oscille entre deux politiques, celle de la démocratisation et celle de la sélection d'une élite. Les politiques de démocratisation présupposent non seulement la diffusion de l'instruction, mais aussi l'égalisation des chances de réussite. La scolarisation jusqu'à l'âge de 16 ans, décidée en 59, est véritablement appliquée à partir de 67. Les collèges d'enseignement secondaire, les CES, mis en place en 63, mettent en œuvre une politique, une organisation par niveau, primaire et secondaire. La création des instituts universitaires de technologie en 66 correspond également à ces orientations. De Gaulle voulait à la fois démocratiser, élever le niveau général, ouvrir largement l'enseignement secondaire aux enfants de tous les milieux, d'où la création des collèges en 63, et sélectionner une élite. La sélection suppose une limitation de l'accès à l'enseignement supérieur et une orientation plus affirmée des étudiants. Cette politique se heurte très rapidement à l'opposition du principal syndicat étudiant, l'UNEF. En 67, l'UNEF compte 30 000 adhérents. Il met en avant un programme de démocratisation et de réforme de l'enseignement, égalité des chances, diffusion de l'instruction avec une transformation de la pédagogie, alors centrée sur le cours magistral, une absence de sélection et de numerus clausus, une transformation des règlements intérieurs des résidences universitaires dans le sens d'une plus grande liberté, en particulier pour une libre circulation entre les bâtiments des garçons et ceux des filles. Les contemporains prennent conscience des dimensions sociales de l'échec scolaire. Les travaux des sociologues Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, notamment leur livre « Les héritiers », sous-titré « Les étudiants et la culture », publié en 1964 aux éditions de Minuit, insistent sur l'importance de la reproduction sociale et avancent la notion de capital culturel. Les enfants des catégories aisées, fils et filles de professeurs, professions libérales, cadres du public et du privé, sont fortement surreprésentés parmi les étudiants. En 1962, les catégories aisées constituent moins de 5% des actifs, mais leurs enfants représentent près de 30% des étudiants. A contrario, seuls 2% des étudiants sont des enfants d'ouvriers, alors que ceux-ci constituent plus de 36% des actifs en 1962. La réforme mise en place en 1966 par le ministre de l'Éducation nationale, Christian Fouché, F-O-U-C-H-E-T, soulève de nombreuses oppositions dans le milieu universitaire. Les études universitaires y sont totalement restructurées, imposant une orientation en trois cycles successifs, ainsi qu'une spécialisation en filière. Chaque filière est définie dans le plus grand détail, de même que l'organisation des examens. Le supérieur est secondarisé. Les étudiants ne peuvent plus choisir librement leurs cours et l'organisation ne prend pas en compte la question des débouchés professionnels. Et puis continue de se poser la question de la sélection et de la pédagogie, puisque le cours magistral reste dominant. L'université de Nanterre, créée en 64, peut être considérée comme le point de départ du mouvement étudiant de mai 68 en France, en raison d'une part du rôle qui jouent les enseignants, les étudiants, notamment en sociologie, d'autre part de la présence en son sein de militants d'extrême gauche. De plus, l'université se situe dans un environnement social difficile, celui des bidonvilles et des terrains vagues, une misère à laquelle les étudiants sont sensibles. Les enseignements de plusieurs professeurs, Henri Lefebvre, Alain Touraine, Jean Baudrillard, ouvre de nouvelles perspectives quant à l'analyse des questions sociales et la transformation des relations entre enseignants et enseignés. À Nanterre se décline toute la panoplie des groupes et actions que l'on trouve en ordre dispersé dans d'autres universités. Les libertaires, les situationnistes, les trotskistes de la JCR, la Jeunesse communiste révolutionnaire, y sont présents. Chaque groupe politique d'extrême gauche possède ses références théoriques et historiques dans l'histoire des révolutions, de la Commune de Paris à la Révolution culturelle chinoise, en passant par la Révolution russe de 1917. Dès novembre 1967 éclate une grève dans le département de sociologie pour protester contre la sélection et la mise en œuvre de la réforme Fouché. Le 20 mars 1968, au cours d'une manifestation en faveur du Vietnam et des militants noirs américains, un étudiant ainsi que plusieurs membres du comité Vietnam national sont arrêtés. En réaction, le 22 mars est décidée l'occupation de la tour administrative de l'université de Nanterre. On trouve parmi les manifestants Daniel Cohn-Bendit, dont je rappelle que ça s'écrit Chon-Bendit, qui est un militant de sympathie libertaire. Il est né en 1945 d'un père allemand, d'une mère française, et depuis 1958, vit entre la France et l'Allemagne. Il rentre en France pour faire des études de sociologie à Nanterre. Il participe alors au mouvement de 1967 sur le site de la faculté de la résidence étudiante de Nanterre. En janvier 1968, il interpelle le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de l'inauguration de la piscine du centre sportif universitaire sur l'absence de prise en compte de la dimension sexuelle de la jeunesse. Le mouvement du 22 mars naît dans ce contexte. Il revendique cette liberté sexuelle et le droit d'expression politique à l'intérieur de l'université. Il appelle à débattre au sein d'une université critique de la lutte anti-impérialiste, des luttes ouvrières et étudiantes dans les pays de l'Est ou du thème culture et créativité. Dans un premier temps, le doyen de l'université, Pierre Grappin, GRA2PIN, tolère ces rassemblements. Alors que le conseil de la faculté prend des mesures pour l'organisation régulière des examens, le 2 mai, les étudiants du mouvement du 22 mars interrompent le cours du professeur René Raymond pour tenir une réunion politique dans l'amphithéâtre. Le lendemain, le doyen suspend les cours et ferme l'université. Les Nanterrois se transportent alors à la Sorbonne pour y tenir meeting. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est brosser une chronologie des événements, des principaux événements, tenir en somme une chronique, et je passerai ensuite aux interprétations possibles de ce mouvement étudiant des années 60 en France. Chronologie d'abord. Du 2 au 12 mai 68, la crise est principalement étudiante. À partir du 13 mai, le mouvement s'étend à d'autres catégories sociales, par des grèves, des occupations, d'usines, etc. La jonction entre le mouvement étudiant et celui des autres catégories sociales est spécifique à la France et à l'Italie. Le 3 mai, alors que la cour de la Sorbonne est occupée par des étudiants, ceux-ci en sont violemment expulsés par la police. 300 militants, membres des groupes d'extrême gauche, sont arrêtés. Tandis que les étudiants manifestent au quartier latin, qui est le quartier traditionnel hein, des universités et des étudiants, les compagnies républicaines de sécurité et les CRS chargent les manifestants. Naît alors le slogan polémique CRS-SS. Les 4 et 5 mai, la police occupe le quartier latin. Les étudiants réclament la libération de leurs camarades emprisonnés, la réouverture de la Sorbonne, l'arrêt des violences policières. Le SNESUP, conduit par Alain Gesmard, maître assistant à la Faculté des sciences de Paris, Gesmard c'est GEISMAR, et l'UNEF, conduite par Jacques Sauvageot, SAUVAGEOT, deviennent les principaux syndicats qui conduisent ce mouvement étudiant. Ils appellent à se joindre à la grève des étudiants, jouent un rôle de médiateur dans les négociations avec la police lors des manifestations. Le 6 mai, Daniel Cohn-Bendit, 6 autres étudiants de Nanterre passent devant le conseil de discipline de l'Université de Paris, mais aucune sanction n'est finalement retenue contre eux. À partir du 9 mai, le mouvement s'étend dans d'autres villes universitaires, à Toulouse, Strasbourg, Montpellier, Lyon, Marseille. Les lycéens se joignent au mouvement, des comités d'action se réunissent dans les universités, les quartiers, les usines, une coordination des comités d'action est mise en place. De leur côté, les syndicats ouvriers, en particulier la CGT, dirigée par Georges Ségui, S-E-G-U-Y, mettent violemment en cause des groupuscules gauchistes provocateurs et irresponsables, selon les termes du leader de la CGT. Le 10 mai se déroule la nuit des barricades. Des barricades sont dressées au quartier latin. Des manifestants étudiants sont arrêtés. Le 12 mai, le Premier ministre Georges Pompidou, à son retour de voyage à l'étranger, annonce la libération des étudiants arrêtés, leur amnistie et la réouverture de la Sorbonne. Il déclare à la télévision « J'ai rendu l'université à ses maîtres et à ses étudiants ». Et il met en garde les étudiants vis-à-vis des groupes d'enragés qui mettent en péril la nation et la République. À partir du 12 mai s'ouvre une nouvelle phase autour de la réouverture de la Sorbonne et de la grève générale qui relie le mouvement étudiant et les grévistes ouvriers. Le 13 mai 68, jour anniversaire des manifestations du 13 mai 58 à Alger, donc 10 ans après, les syndicats CGT et CFTT appellent à une grève de 24 heures. Une grande manifestation intersyndicale réunissant de 200 000 à 1 million de personnes selon les estimations et rassemblant travailleurs et étudiants, se dirige de la place de la République à la place d'Enfer Rochereau à Paris. Après le 13 mai, jusqu'à la fin du mois de juin, on assiste à une généralisation des grèves des travailleurs. Les étudiants recherchent des convergences avec les ouvriers. Ainsi, lorsque les ouvriers de l'usine Sud Aviation à Nantes votent la grève avec occupation de l'usine le 14 mai, les étudiants de l'université expriment leur solidarité. Le thème de la grève générale se répand et alimente toutes les mythologies. La Sorbonne est désormais occupée jour et nuit. Des comités d'action se mettent en place dans les universités, les quartiers, les usines. Le 15 mai, l'école des Beaux-Arts à Paris est occupée par les étudiants. Étudiants et artistes mettent en place l'atelier des Beaux-Arts où sont produites jour et nuit par centaines des affiches sérigraphiées, non signées de leurs auteurs avec un tampon Atelier des Beaux-Arts et qui vont bientôt recouvrir les murs de Paris. Sur ces affiches s'exprime la dénonciation du pouvoir gaulliste, de la police et de la politique de participation souhaitée par le pouvoir. Les graffitis sont autant d'actes d'écriture qui remodèlent l'espace public comme espace d'influence. Du 12 mai au 16 juin, la Sorbonne occupée revêt plusieurs visages au fil du jour et de la nuit. Comme l'affirme en 68 divers historiens et historiennes, Michel Perrault, Madeleine Reberiou, Jean Métron, dans leur recueil « La Sorbonne par elle-même », plusieurs sensibilités politiques s'expriment. Plusieurs Sorbonnes, en fait, se succèdent au fil de la journée. Le matin, tandis que les occupants vaquent aux soins du ménage, on a la Sorbonne studieuse et réformatrice des commissions qui se réunissent donc pour plancher sur la réforme de l'enseignement. L'après-midi, c'est la Sorbonne politique et militante des assemblées générales. Le soir, c'est la Sorbonne des rencontres, des poètes, des artistes, des irréductibles de tout pays. Sorbonne étrange, un peu hallucinée de la nuit, pleine de rumeurs et d'alarmes, refuge des contestataires, carrefour des enfants perdus, comme l'écrit Michel Perrault. Cette citation illustre les activités qui se déroulent au sein de la Sorbonne. Travail des commissions, qui œuvrent donc à une possible réforme des enseignements, celle des déclarations, les enthousiasmes politiques et révolutionnaires, celle de la prise de parole où tous les présents peuvent s'exprimer. Dès le 16 mai, le mot d'ordre du boycott, c'est le mot d'ordre du boycott et des reports des examens qui circulent. On dénonce aussi la culture comme apanage des conservateurs. Le théâtre de l'Odéon se met en grève avec occupation entre les 15 et 16 mai. On y dénonce une conception de la culture comme produit de la consommation qui meuble des loisirs. On revendique une culture vivante qui prenne racine dans la vie quotidienne. On y avance que tout est politique. Le 20 mai, 10 millions de travailleurs sont en grève. Le 22, Daniel Cohn-Bendit est interdit de séjour en France et expulsé, ce qui engendre de nouvelles manifestations. Les 25 et 26 mai, les négociations de Grenelle se déroulent au ministère du Travail et de l'Emploi avec les syndicats ouvriers. Le 27, un meeting au Stade Charlety est organisé par l'UNEF, le PSU, la CFDT, en présence de Pierre Mendès France et de François Mitterrand, qui se dit prêt à être candidat en cas d'élection. Le général de Gaulle se rend à Baden-Baden, en Allemagne, le 29 mai, pour s'entretenir avec le général Massu. Et le lendemain, le 30 mai, dans une allocution radiodiffusée, il annonce qu'il décide la dissolution de l'Assemblée nationale. Diverses composantes des droites, des gaullistes, l'extrême droite, organisent le 30 mai une manifestation de rue à Paris, de l'Étoile à la Concorde. Ils mettent en place des comités de défense de la République qui font campagne contre la subversion marxiste, le désordre, au nom de la majorité silencieuse, disent-ils. 400 à 500 000 manifestants défilent, chantant la Marseillaise et criant des slogans hostiles aux manifestants étudiants. Le mouvement étudiant se poursuit en juin dans les universités où les examens sont provisoirement reportés. Des commissions de sensibilité réformatrice élaborent des propositions sur l'enseignement dans les universités, tandis que les plus radicaux poursuivent les manifestations et le soutien aux grèves. Parallèlement, une campagne radio-télévisée du pouvoir laisse entendre que la Sorbonne serait désormais aux mains de délinquants étrangers. Les étudiants résistent à ces fausses informations qu'ils qualifient de provocations, mais ils opèrent eux-mêmes une remise en ordre de la Sorbonne et expulsent les plus violents d'entre eux, ce qu'on appelle parfois les enragés. Le mois de juin 68 est celui de la répression, du retour à l'ordre. Le 10 juin, le lycéen Gilles Tautin, T-A-U-T-I-N, meurt noyé à Flins lors d'une course-poursuite avec les CRS pendant l'évacuation de l'usine Renault. Le 11 juin, le lendemain donc, à Peugeot, à Sochaux, deux ouvriers sont tués, plusieurs autres blessés. Le 12, toutes les manifestations sont interdites. 11 groupuscules sont dissous par les ministres de l'Intérieur. Le théâtre de l'Odéon est évacué le 14 juin, la Sorbonne le 16 juin. Les Français sont appelés à voter les 23 et 30 juin. Cependant, la majorité électorale se situant à l'époque à 21 ans, beaucoup d'étudiants ne peuvent pas prendre part au vote. Une partie des contestataires dénonce ces élections trahison qui entendent faire passer le pouvoir de la rue aux urnes. La majorité sortante, la majorité de droite, l'emporte largement à ces élections des 23 et 30 juin, qui sont un signe de l'attachement de la majorité des Français aux institutions de la Ve République et à l'unité de la nation. Alors, les interprétations des significations du mouvement de mai à présent, si le mouvement de mai 68 véhicule de nombreuses significations politiques, les contemporains perçoivent immédiatement que les manifestants s'intéressent peu finalement aux symboles et aux lieux du pouvoir politique traditionnel. Les jeunes manifestants se politisent au fil des journées de mai et des affrontements avec les forces de l'ordre. Ils sont mobilisés contre les violences policières pour la libération de leurs camarades emprisonnés, mais la politique traditionnelle intéresse assez peu les gauchistes. Le mouvement de mai revêt une portée globale. Des slogans tels que « la politique au premier rang » ou « tout est politique » ou « nous sommes tous concernés » ou « il faut changer la vie » soulignent l'importance accordée aux affaires de la cité et renvoient à une revendication d'une modification radicale de la conception du politique. La manifestation est l'un des moyens d'expression et d'action privilégiés par le mouvement. Les manifestations de rue se font sans préavis. Elles sillonnent Paris et les grandes villes, édifient des barricades qui les inscrivent dans une tradition révolutionnaire, nationale et internationale. Le mouvement se caractérise par sa capacité à susciter et à prendre la parole dans les lieux occupés. Sans prôner la violence comme forme d'expression, les affiches de mai 68 lancent des mots d'ordre qui donnent une signification profonde au mouvement. Il faut restituer également le rôle des étudiants réformateurs au sein des universités. On a parlé des commissions pédagogiques qui passent en revue le contenu des enseignements, l'organisation des études, le fonctionnement des établissements. Des préoccupations décriées par ailleurs par les étudiants les plus politisés considèrent qu'il y a là une forme de négociation avec le pouvoir. Commissions pédagogiques, de ces propositions de réforme, est en partie issue la loi Edgar Faure, adoptée et promulguée le 12 novembre 1968. Celle-ci entend prendre en compte le malaise de la jeunesse étudiante et de l'université et certaines de ses revendications. La loi d'orientation de l'enseignement supérieur crée des établissements d'un type nouveau, les établissements publics à caractère scientifique et culturel. Les anciennes facultés disparaissent et sont remplacées par des unités d'enseignement et de recherche. Les grands principes mis en œuvre par cette loi sont l'autonomie, la participation et la pluridisciplinarité. Parmi les principales innovations pédagogiques et institutionnelles qui découlent du mai étudiant et de la rénovation universitaire, initiée par Edgar Faure, figure la création de deux centres universitaires expérimentaux. Dauphine, installé au sein d'anciens locaux de l'OTAN, dans le 16e arrondissement de Paris, et Vincennes, bâti sur d'anciens terrains militaires à l'est de Paris. Dans les deux cas, l'idée initiale est de créer des institutions nouvelles où puissent avoir lieu des innovations pédagogiques qui fassent rupture vis-à-vis de l'université traditionnelle. Peu de cours en amphi, mais plutôt en petits groupes, des cours en soirée, pas de spécialisation précoce, de nouvelles disciplines, jusque-là peu ou pas enseignées à l'université, les arts, la communication ou l'urbanisme, un contrôle continu privilégié par rapport aux examens, l'ouverture aux non-bacheliers et aux salariés, la liberté des étudiants de choisir leur parcours. C'est à Vincennes qu'apparaît le système des unités de valeur, ce qu'on appelle aujourd'hui les unités d'enseignement, qui s'étendront par la suite à l'ensemble du système universitaire français. Ces innovations séduisent un nombre croissant d'étudiants tout au long des années 70. Dauphine devient une université de plein exercice en 1970, Vincennes la suit en 1971. Mais les deux universités vont connaître un destin bien différent. Tandis que Dauphine se spécialise dans l'économie et les sciences de la gestion en opérant un virage vers une conception de plus en plus libérale du système capitaliste, Vincennes cultive sa différence en privilégiant la philosophie et les sciences sociales et en accueillant les figures de proue de la gauche et de l'extrême gauche universitaire. Gilles Deleuze, Félix Guattari, François Châtelet, Jean-François Lyotard, Alain Badiou, Michel Foucault, Madeleine Reberiou, Hélène Cixous, Giorgio Agamben, entre autres, enseignent un temps à Vincennes devant un public composé d'étudiants souvent très politisés, beaucoup de maoïstes en sociologie et en philosophie, beaucoup de trotskistes en sciences politiques et en histoire, les communistes étant par ailleurs massivement présents dans les instances dirigeantes de l'université. Tout cela fait de Vincennes un lieu de débat et d'effervescence intellectuelle et politique. Mais beaucoup de ces grands intellectuels partent bientôt pour d'autres cieux universitaires et Vincennes va perdre son aura à la fin des années 70. Considéré comme un symbole de 68 puis de la contre-culture des années 70, la marche par exemple des paysans du Larzac va se conclure à Vincennes hein, en décembre 78. La ministre des universités, à la fin des années 70, qui s'appelle Alice Saunier-Seite, S-A-U-N-I-E-R-S-E-I-T-E, Alice Saunier-Seite finira par condamner l'expérience et ordonner la destruction de l'université à l'été 1980, faisant par là même une sorte de martyr pour la gauche universitaire de cette université. Mais en réalité, seuls les bâtiments sont détruits, l'université est transférée dans les bâtiments d'un IUT situé à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. Et ça va devenir donc l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. De 10 ans en 10 ans, à l'occasion des anniversaires de mai 68, les analyses se sont multipliées en même temps qu'étaient publiés les travaux émanant des sciences humaines et sociales. Donc assez logiquement, 1988, 1998, 2008, 2018 ont été des années de forte production, notamment d'historiens faisant l'histoire de ces journées de mai 68. Prolongeant en 1986 ses analyses sur la nuit de la Nation de juin 63, le sociologue Edgar Morin voit dans le mouvement de mai 68 un mouvement de génération dans lequel la jeunesse trouve à s'exprimer contre l'autoritarisme ambiant. Il écrit dans la revue Pouvoir « Mai 68 est un formidable mouvement qui symbolise l'aspiration adolescente et le mythe révolutionnaire et qui a entraîné non pas seulement les étudiants mais aussi l'énorme piétail lycéenne encore sous-politisée qui suivra les leaders étudiants. J'insiste sur l'aspect anti-autoritaire de cette révolte, et pour moi le visage qu'a eu cet événement, que j'ai vécu, que j'ai vécu, je le répète, dans le bonheur, est anti-hiérarchique, anti-autoritaire, libertaire, fraternitaire. Il y a eu un phénomène difficile à comprendre, de lutte de classe d'âge qui déclenche là encore une lutte sociale tout en demeurant donc une lutte de classe d'âge. Plusieurs analystes insistent sur la double dimension anti-autoritaire et marxisante du mouvement. Parmi les théoriciens cités comme référence en 68, on trouve couramment Horkheimer, Adorno, Marcuse, tous issus de l'école de Francfort. Sur le plan politique, l'étude du gauchisme met au jour la séparation qui se crée et s'approfondit au fil des années 60 entre le Parti communiste, le syndicalisme de la CGT et les groupes libertaires, trotskistes et maoïstes de différentes obédiences. Le soutien aux luttes anticoloniales et le mouvement contre la guerre du Vietnam sont l'occasion de manifester la variété des gauchismes et les différences de points de vue, par exemple entre ceux qui s'expriment pour la paix au Vietnam, au Parti communiste ou à l'Union des étudiants communistes, et ceux qui militent pour la victoire du peuple vietnamien, les groupes gauchistes, les comités Vietnam de base. Les différents groupes gauchistes expriment au sein même de la contestation leur différence de conception de l'engagement dans le mouvement social. Les trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire ou de la Fédération des étudiants révolutionnaires mettent en avant la lutte contre le stalinisme et la bureaucratie. Les maoïstes soutiennent, quant à eux, les luttes du peuple, paysans et ouvriers, en référence à la révolution culturelle chinoise de 1966. Voisinant avec le gauchisme politique, s'expriment dans le mouvement de mai 68 des sensibilités libertaires, ouvertes aux mouvements culturels et contre-culturels anglo-saxons, des hippies ou des diggers qui entendent croiser une approche révolutionnaire et une approche libertaire anti-autoritaire. Les slogans comme « Prenez vos désirs pour des réalités » ou « Sous les pavés la plage » en émanent. Chacun de ces mouvements prolongera son action à l'extérieur du Parti communiste dans la première moitié des années 70. En 1998, le sociologue Jean-Pierre Le Goff, dans mai 68, L'héritage impossible, met en avant, dans un point de vue qui a fait date, la notion de gauchisme culturel. Jean-Pierre Le Goff caractérise dans cette notion une position individualiste issue selon lui de mai 68, qui a marqué les 30 années suivantes. Lui-même a participé au mouvement de mai 68 qu'il a vécu à Caen. Selon lui, le gauchisme culturel met en avant une revendication d'autonomie radicale et de rejet des hiérarchies et des institutions. Il va saper les principales représentations de la gauche traditionnelle et produire des effets délétères dans la société. À la différence de la gauche et de l'extrême gauche classique, il ne s'intéresse guère aux couches populaires. Il entend changer les mentalités, opérer une révolution culturelle dans le domaine des mœurs, de la culture, de l'éducation des enfants, en accordant une importance particulière aux nouvelles générations. Ce gauchisme culturel s'est affirmé à travers cinq thèmes principaux, particulièrement révélateurs du déplacement de la question sociale vers d'autres préoccupations. Le corps et la sexualité, la nature et l'environnement, l'éducation des enfants, la culture et l'histoire. En déplaçant la question sociale vers ces thèmes, le gauchisme culturel s'inscrit dans les évolutions des sociétés démocratiques. Il se situe dans la problématique de la gauche qu'il adapte à la nouvelle situation historique en lui faisant subir une distorsion, en recyclant et en poussant à l'extrême ses ambiguïtés et ses orientations les plus problématiques.